Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Joudard, le 4 avril 90.
L'extase est-elle un effet de l'amour? C'est un très bel article. Denis écrit. L'amour divin produit l'extase. Et que Dieu lui-même est sorti de soi par amour. Comme tout amour est une certaine ressemblance participée de l'amour divin, ainsi qu'on l'explique au même endroit, il semble que tout amour soit cause d'extase. Tout amour cause extase. On dit de quelqu'un. Alors, voilà l'explication de saint Thomas. On dit de quelqu'un qu'il est en extase. Extasim pati digitur aliquis. Lorsqu'il est mis hors de soi. Vous voyez, c'est, il faudrait dire, quelqu'un est dit pati extasim. L'extase. Donc c'est pas il est en extase, mais qu'il pâtit. C'est important. Vous voyez, le pâtit extase, il n'est pas du tout dit dans la traduction. Cum extra seponitu. Nous-mêmes se poser en dehors de nous. C'est pour ça qu'il parle d'un pâti. On pâtit l'extase. C'est-à-dire qu'on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre qui nous fait sortir de nous. Mais c'est pas du tout c'est une causalité efficiente. On va se poser en dehors de soi, vous voyez ça. Cela peut arriver dans l'ordre de l'appréhension et dans celui de l'affectivité. Oui, ce qui peut arriver selon vis appréhensivam, selon la force appréhensive et selon la vie appétitive. Oui, alors qu'on peut arriver dans l'ordre de l'appréhension, c'est pas tout à fait la vis appréhensivam, ce qui peut arriver selon. C'est très difficile à traduire, la vis appréhensiva. Mais c'est l'élan appréhensif, la force appréhensive, et selon la force appétitive. Dans l'ordre, c'est-à-dire selon la vis appréhensiva, on dit de quelqu'un qu'il est mis hors de soi. Quand il est entraîné hors de la connaissance qui lui est propre. Que ce soit par introduction à une connaissance plus haute, comme il en va de l'homme élevé à la compréhension de certaines choses dépassant la portée de ses sens et de sa raison. Et dont on dit qu'il est en extase parce qu'il est transporté hors de la perception naturelle de sa raison et de ses sens. Ou bien parce qu'il est ravalé au-dessous de soi, comme subit une extase celui qui tombe dans la folie et la démence. Drôle d'extase. Si tu voulais te poser en dehors de soi, ou au-delà, ou en dessous du niveau de la mer, vous voyez, on est en extase. Dans l'ordre affectif, on dit qu'il y a, donc selon la vis appétitivam, selon la partie appétitive, quelqu'un est dit être en extase. Lorsque la faculté d'aimer se porte. l'œuvre de l'amour par mode de disposition. Pour autant que l'amour fait méditer sur ce qu'on aime. Comme nous l'avons dit, et la méditation intense d'une chose fait oublier toutes les autres, ce qui vous arrive tous les matins. Grâce à l'amour, la vis appréhensiva, la méditation très intense fait oublier tout le reste. Quant à la seconde extase, l'amour en est la cause directe. Purement et simplement dans l'amour d'amitié et d'une certaine manière seulement dans l'amour de convoitise. Car dans l'amour de convoitise, l'aimant se porte en quelque sorte hors de soi, selon que non content de jouir du bien qu'il possède, il cherche à jouir de quelque chose en dehors de lui. Mais parce que ce bien extérieur, il cherche à l'avoir pour soi, il ne sort pas, à vrai dire, de soi. Une telle affection, en fin de compte, se ramène à lui. Mais dans l'amour d'amitié, l'affection sort absolument d'elle-même, car on veut du bien à son ami et on y travaille, comme si l'on était chargé de pouvoir, de pourvoir à ses besoins, et cela par l'ami lui-même. Donc la véritable extase se produit dans l'amour d'amitié, où l'on sort de soi pour s'occuper du bien de l'ami. Et on est tout entier porté vers l'ami. On ne s'occupe plus que du bien de l'ami. Il y a une certaine extase dans la vis appréhensiva, c'est-à-dire dans l'appréhension, dans la connaissance. Lorsque, justement, par l'amour, on est tellement pris par ce qu'on connaît, ce qu'on contemple, qu'on ne pense plus à rien d'autre. On est saisi par la réalité qu'on contemple, à laquelle on médite. Alors je vois tout de suite la dernière raison. Celui qui aime sort de soi dans la mesure où il veut du bien à son ami et travaille à le réaliser. Et s'il ne veut pas le bien de son ami plus que le sien propre, il ne s'ensuit donc pas qu'il aime autrui plus que soi. Et c'était l'objection qui consistait justement à montrer qu'on aime l'ami dans la mesure où l'on s'aime. Ça, c'est une jolie objection. L'amour unit l'aimé à l'aimant. Si donc l'aimant se tient hors de soi pour rejoindre l'aimé, il s'ensuit qu'il aime toujours l'autre plus que soi-même, ce qui est manifestement fou. Parce qu'on est plus uni à soi qu'à l'autre. Donc l'amour de soi est impliqué dans l'amour de l'autre. Alors voyez la réponse. Celui qui aime sort de soi dans la mesure où il veut du bien à son ami et travaille à le réaliser. Mais s'il ne veut pas le bien de son ami plus que le sien propre, il ne s'ensuit donc pas qu'il aime autrui plus que soi. Bien qu'il soit dit donner sa vie, c'est la manifestation du plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. On aime plus la sainteté de son ami que sa propre existence terrestre. Et donc on peut offrir sa vie terrestre pour le bien de son ami. Mais je ne peux pas dire que j'aime plus la sainteté de mon ami que ma propre sainteté. Bien que Catherine de Sienne, à la suite de saint Paul, dise « Je désire être anathème pour mes frères. » Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ils iront endurer toute la souffrance qu'il faut pour le salut de mon frère. Le Christ a aimé plus notre sainteté que sa propre vie terrestre. Et Marie a aimé plus notre propre sainteté que la présence sensible et visible du Christ au lumière. C'est ça l'extase. C'est d'aimer plus l'autre pour un bien supérieur que le bien inférieur pour nous-mêmes. C'est en sens-là que l'amour nous purifie de tout égocentrisme. Parce qu'il nous fait sortir de notre égocentrisme. Et c'est en aimant. Et c'est l'amour d'amitié qui réalise ça. Un amour d'amitié nous fait sortir de notre égocentrisme pour aimer plus l'ami dans son bien propre spirituel. Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment tout amour est une certaine ressemblance participée de l'amour divin?
Oui. Tout amour, l'amour le plus naturel qui soit, est une participation plus ou moins lointaine à l'amour divin et, nous pouvons aller plus loin, à l'Esprit Saint qui est le fruit de l'amour. Participation formelle dans l'agapé, dans la charité. Participation plus lointaine dans l'amour humain. Mais saint Thomas précise ici, et il a raison de le dire, en étant théologien. Parce qu'on est en théologie, on peut le dire. Mais en philosophie, je ne pourrais pas le dire, sauf dans une vision de sagesse. Exacto. a-t-il un effet de l'amour? D'après Denis, Dieu est appelé zélateur à cause du grand amour qu'il a pour les êtres. Zélotesse. Le zèle, en quelque sens qu'on le prenne, vient de l'intensité de l'amour. Zélos. Il est manifeste, en effet, que plus une force se porte intensément vers quelque chose, plus elle repousse avec rigueur, avec vigueur, ce qui lui est contraire ou hostile. Or, l'amour, comme le dit saint Augustin, est une sorte de mouvement qui tend vers l'aimé. Un amour ardent cherchera donc à exclure tout ce qui s'oppose à lui. Donc, intensus amor, quaerit excludere omne quod sibi repugnat. Mais cela se produit différemment dans l'amour de convoitise et dans l'amour d'amitié. Dans le premier, celui qui désire ardemment quelque chose est porté contre tout ce qui l'empêche d'obtenir ce qu'il aime ou d'en jouir tranquillement. C'est en ce sens que l'on parle du zèle des maris pour leurs femmes. Ils ne veulent pas que ce qu'il cherche d'unique auprès d'elle soit empêché par la compagnie des autres. Et de même, ceux qui sont avides d'excellence s'élèvent contre ceux qui paraissent supérieurs, comme s'ils empêchaient leur propre excellence. C'est le zèle de jalousie dont il est écrit « Ne sois pas jaloux des méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. » Donc on voit très bien ce que c'est ça, la passion, vous voyez, d'amour, qui nous donne le zèle de la jalousie. Et cette ardeur qui fait qu'on exclut tous ceux qui peuvent nous empêcher vraiment de jouir du bien qu'on aime. Et qu'à regarder une abeille qui est dans le miel. Très très bien. Il y a la concupiscence extraordinaire de prendre le plaisir. Et s'il y en a d'autres, des coups de patte pour empêcher de l'autre. Des chiens qui sont en train de prendre un os, ils s'écartent. Ça se voit très très bien chez les animaux. Et après avoir bien regardé ça chez les animaux, on regarde ça chez les hommes. Et on retrouve la même passion de convoitise et le même zèle qui consiste à exclure les autres pour qu'on soit seul en face de la tarte. Oh, c'est extraordinaire ça. On devient malin dans cet ordre-là. Pour prendre ça. Les oiseaux font ça admirablement aussi. Quand ils ont leur proie, ils s'écartent. Il s'écarte pour être seul, la jouissance seule. Dans l'amour d'amitié, au contraire, on cherche le bien de l'ami. Et quand l'amour est intense, il dresse celui qui aime contre tout ce qui s'oppose au bien de son ami. On dit alors de quelqu'un qu'il a du zèle pour son ami quand il s'applique à éloigner les paroles ou les actes qui vont contre le bien de celui-ci. C'est aussi de ce zèle que l'on est animé pour Dieu, quand on fait son possible pour empêcher ce qui est contraire à l'honneur ou à la volonté de Dieu, selon ces mots du livre des rois. J'ai brûlé de zèle pour le Seigneur des armées. Sur ce texte de saint Jean, le zèle de ta maison me dévore, la glose dit également, et dévorer d'un bon zèle celui qui s'efforce voie de mal, et qui, s'il ne peut y réussir, tolère en gémissant. Oui, le zèle qui accompagne l'amour. Alors c'est un aspect d'efficacité, vous voyez. L'extase est purement affective. C'est ça qui est intéressant à voir, hein. C'est qu'on passe d'une propriété d'un effet du côté affectif à une propriété du côté affectif. Le zèle, c'est toute la générosité mise au service de l'amour. Alors un zèle du côté de l'amour de concupiscence, un zèle du côté de l'amour d'amitié, c'est pas le même du tout. la jalousie fait loucher. Caïn, à l'égard d'Abel. Alors on a un œil toujours là, attentif. On voit des tas de choses qu'on ne verrait pas si on n'était pas jaloux. La jalousie vous rend curieux. Voyez, c'est pas le zèle, c'est différent. Et le mot jalousie, c'est vrai que dans l'écriture, il s'emploie aussi à l'égard de Dieu. Dieu est jaloux de nous. Alors, c'est un sens tout à fait différent. Et c'est pour ça que je crois que c'est beaucoup mieux de traduire le zèle ici. Parce que c'est vraiment le zèle. Quand saint Thomas met la différence entre zèle ou sylvitié, ne sois pas jaloux des méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Alors évidemment, nec zelaveris facientes iniquitatem. Alors on met ne sois pas envieux, ne porte pas envie. Vous voyez ? Ça se tient, ça se touche à certains moments, il y a des confusions entre les deux. Mais si je lis attentivement l'article de saint Thomas, je crois que c'est assez net. Le zèle, vous voyez, l'ardeur du cœur. Alors, voyons les objections. Le zèle est une source de dispute, comme on le voit par ces mots de saint Paul. Puisqu'il y a parmi vous du zèle et des disputes. Zelus et contentio. Alors évidemment, vous voyez là, zelus est pris très fort comme jalousie. La jalousie est source de disputes. Un zèle jaloux est source de disputes. Je dirais ça. Un zèle au niveau de jalousie. Alors, réponse. L'apôtre parle à cet endroit du zèle de la jalousie, voyez donc, c'est bien ça. Zelus invidiae, qui provoque en effet des disputes. Non, certes, contre la chose aimée, contre la personne aimée, mais en sa faveur et contre ce qui lui fait obstacle. C'est la rivalité. Moi, je crois que la jalousie revient presque toujours d'une rivalité. On ne veut pas que l'autre passe devant nous. Alors, on lui fait un petit piège au bon moment. On devient très astucieux par la jalousie. Et il y a des tas de choses imaginatives qui passent. Ah, si je faisais ça, il verrait, vous voyez. Et au fond, c'est ce que fait Caïn. Il voit que Abel, quand il prie, il pense à personne d'autre qu'à Dieu. Et quand vous faites oraison le matin, vous voyez à côté de vous un petit jeune novice. Oh, il est en extase. Il suffit qu'il entre dans l'église pour être en extase. Tout de suite. Il s'occupe de rien d'autre. Il y a même un phénomène de lévitation. Et quand même, moi, je suis là depuis 5 ans. Je ne suis pas arrivé encore à décoller de ma place.
Sur toutes les petites jalousies.
jalousie, parce que on a tous l'expérience de la jalousie. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience de la jalousie, je dis c'est un pauvre type. C'est vrai, on a tous l'expérience de la jalousie. Parce qu'on aime, parce qu'on a un zèle. Si on n'avait pas de zèle, on n'aurait pas de jalousie. Mais c'est les retombées. bien que c'est très délicat. Je crois que zélos. Je crois que le mot zèle en français vient de zélos. Dès qu'on aime, on devient vulnérable. Un rien peut blesser terriblement. Et alors saint Thomas montre que dans la passion, il y a la même chose. Alors c'est le corps qui pâtit. Donc je crois qu'il faut être très attentif à ça. Saint Thomas ne le souligne pas ici, mais je crois qu'on peut le souligner. L'amour en lui-même fortifie, mais l'amour rend vulnérable aussi. et parce que l'amour rend vulnérable, il suffit très peu de choses pour qu'on soit blessé. Insensible, et parce que Dieu nous aime.